France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Des gestes et des outils, comment exposer le monde paysan? C'est une formidable aventure humaine, une démarche scientifique hors du commun qui a pour cadre un hameau de l'Aubrac dans les années 1960. 1960, mais aussi avant, puisque le temps semble figé. Ce temps du passé qui est celui du présent. Nous nous trouvons à la croisée des disciplines de l'Aubrac, au musée d'ethnographie du Trocadéro et au musée des arts et traditions populaires, ou encore dans les écomusées, hier pour demain.
À cheval sur la Lozère et l'Aveyron, le plateau de l'Aubrac. Altitude 1300 mètres, essentiellement des pâturages d'été.
C'est un travail tenu. On n'est pas libre, on n'a pas de jour de vacances, que ce soit dimanche ou il faut toujours travailler. Les jours de fête, pareil. Moi, je m'occupe du fromage. Lui, il s'occupe du lait, quoi. Du lait et des vaches. Et puis lui, il s'occupe des veaux.
Le cours de l'histoire.
Alors si ça disparaît, c'est le fromage, c'est une certaine
qualité. C'est le fromage qui disparaît à Paris.
Les derniers burons dans l'Aubrac en 1971, les burons, ce sont ces petites constructions où les bergers d'Auvergne s'abritent et où ils font leur fromage. Bertrand Tillier, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur d'histoire du patrimoine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur du fantasme patrimonial, Récit des Fajous. C'est publié aux éditions du CNRS. Qui sont les Fajous?
Les Fajous, c'est un hameau de quelques fermes qui se trouve en Aubrac et qui a retenu l'attention des équipes de Georges-Henri Rivière et du Musée national des arts et traditions populaires dans le cadre d'une grande enquête pluridisciplinaire qui a constitué un moment fort de l'ethnologie métropolitaine.
Ah bah oui, c'est écrit juste sous le titre Aubrac 1964-1966. Nous évoquions ici les burons, ces petites constructions en pierre. Voilà, les burons fait partie de tout ce qui construit notre imaginaire lié à un passé rural qui a longtemps été présenté comme figé dans le temps. C'est ici, dans les années 1960, une démarche particulière qui est héritière d'une démarche ancienne qui naît au 19e siècle. La peur de perdre ce monde ancien, vouloir peut-être le figer, en tout cas en conserver la trace.
Oui, il y a tout un courant à partir du 19e siècle qui a été notamment porté, animé par des écrivains. Hein. Je pense en particulier à Georges Sand, par exemple, qui a constitué une sorte de patrimonialisation de papier de la culture rurale. Alors Berrichon pour ce qui est de Georges Sand, mais ça vaut pour beaucoup d'autres régions où on s'est intéressé aux traditions orales, aux gestes du travail, aux costumes, aux outils, à leur maniement, etc. Et à partir de la fin du 19e siècle, il y a une véritable ethnologie qui se constitue à travers la patrimonialisation, cette fois-ci, d'objets. Alors, ça s'est beaucoup joué en province, et les musées de province, aujourd'hui, ont encore beaucoup de parties de leur collection qui concernent ce type d'objets, qui sont plus ou moins encore présentés. Peut-être le plus connu, c'est évidemment le musée en art latin de Frédéric Mistral, hein, qui l'a construit à Arles, fait créer à Arles, avec une partie de la dotation de son prix Nobel. Et où il y a des dioramas qui ont été conçus autour de la vie arlésienne, mais il y a surtout à partir de 1878 et de la grande exposition universelle qui s'est passée à Paris autour du Trocadéro, ce musée donc national, même si c'était pas exactement son nom d'ethnologie, où il y avait cette salle de France avec des vitrines thématiques par région et qui étaient des sortes de dioramas là encore de reconstitution de scènes domestiques et de scènes de travail.
La démarche un peu romantique du 19e siècle, qui était associée à ce mot folklore tellement difficile à manier, nous l'entendons bien ici, s'associe à une démarche scientifique très tôt. Dès la fin du 19e siècle, il y a une réflexion posée sur ce monde rural, ce monde paysan, appelé à disparaître avec l'industrialisation. Il y a déjà ce sentiment-là.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les premiers ethnologues qui cherchent à se dégager de l'emprise du folklore, qui a une teinte idéologique évidemment un peu particulière et changeante au fil du temps. Ces premiers ethnologues, ils vont chercher à construire une science, et cette science, elle repose sur des protocoles, des pratiques qu'ils essaient de normer, de stabiliser. Et le musée est un acteur évidemment de cette scientifisation progressive de l'ethnologie, puisque le but de toutes ces opérations, c'est de collecter des objets qui vont être conservés parce que le monde auquel ils s'intéressent, ils ont la conscience que d'une part il est en train de s'altérer sous l'effet de la modernité, du progrès, etc., mais que peut-être même il va disparaître. Donc c'est une sorte de projection vers l'avenir qui est celui de l'évanouissement d'un monde dont il faut essayer de conserver des reliques en quelque sorte, voilà, des débris peut-être même dans un sens pour les générations futures. Et c'est là le rôle du musée qui est évidemment au centre de cette affaire.
C'est d'ailleurs très pertinent d'avoir placé en 1878 dans l'exposition universelle que nous associons à l'idée de la technologie, de l'industrie, ce musée du Trocadéro, un musée ethnographique qui demeure au Trocadéro. Il y a toute une histoire à écrire, hein, parce que 1878, c'est ce musée ethnographique, puis c'est le palais de Chaillot, on aboutit au musée de l'homme à la fin.
C'est ça, c'est-à-dire que en fait le musée d'ethnographie va vivre autour d'une ethnographie qui sera principalement extra-occidentale, avec cette particularité métropolitaine de la salle de France. Il va vivre jusque les années 30, enfin, il va fermer dans les années 20, il va être ouvert à la faveur, alors pas d'une exposition universelle, mais d'une exposition internationale. Le diable se cache dans les détails, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait, celle de 1937 à Paris. Et donc, on crée au Palais Chaillot, à ce moment-là, une double entité qui va être celle du Musée de l'Homme et celle du Musée des Arts et Traditions Populaires.
Comment est perçu d'ailleurs ce monde rural à ce moment-là ?
Alors ce monde rural, il est perçu comme un monde avec lequel la société française, dans son ensemble, a encore un lien fort. C'est ce qui fait que Georges-Henri Rivière, dans les années 30, dit « je connais mieux, sous-entendu, grâce aux travaux des scientifiques et grâce au musée, je connais mieux les Indiens des plaines que la culture des paysans de France ». Donc il est dans cette idée que c'est une bascule. Alors on invente toujours la bascule qui nous intéresse, qui nous sert et qui justifie notre démarche, mais il est dans cette idée d'une bascule, c'est-à-dire d'un monde qui a encore, d'une société française qui a encore des rapports très forts, familiaux notamment, avec la société rurale, mais qui s'en éloigne inexorablement, et donc il pense que c'est là où son action doit se nicher.
Dans les années 1960, encore, Georges-Henri Rivière évoquait ce monde en train de disparaître.
C'est tout ce monde qui disparaît. Ce monde des pays de France, des façons de cultiver la terre, d'élever le bétail, de se vêtir, d'habiter, de se divertir, d'imaginer. C'est tout ce monde-là qui disparaît au travers de nos pays, et c'est l'objet du Musée des Arts et Traditions Populaires de le conserver. C'est un bâtiment ultramoderne qui se dresse en ce moment à côté du jardin d'acclimatation. Pourquoi ce bâtiment ? Parce qu'il doit remplir les trois fonctions essentielles d'un musée adapté à la situation que je viens de dire. D'abord, il doit conserver, il doit sauver le plus beau de ses témoins d'un âge pré-industriel qui disparaît. Et pour cela, il y aura les dispositions les plus savantes, le climat les plus raffinés pour que ces objets soient transmis aux générations futures. Il faut les préserver, mais il faut aussi les étudier. Il y aura tous les moyens scientifiques qui seront investis dans les laboratoires pour que des études approfondies puissent être faites autour de ces témoignages. Enfin, il faudra les mettre en valeur et l'explication de ces choses sera donnée dans les galeries ouvertes au grand public et encore par les prolongements des moyens audiovisuels dans les auditoriums. En somme, un manifeste au passé traditionnel de la France avec tous les moyens de conservation, d'études et de mise en valeur.
En 1963, Georges-Henri Rivière proposait à la radio-télévision française un véritable programme. Bertrand Tillier, il dit tout ici. Il y a les motivations, le chemin à suivre et puis les divers moyens qu'il faut adopter pour réussir dans cette volonté exprimée extrêmement clairement. D'ailleurs, c'est formidable de l'entendre parler, Georges-Henri Rivière. D'ailleurs, on peut le présenter en un mot, il est ethnologue. Alors c'est difficile à définir, on le présente souvent comme muséologue.
Exactement, c'est-à-dire que Georges-Henri Rivière, c'est un personnage d'une grande singularité dans le paysage culturel français du second XXe siècle. C'est un musicien au départ qui tombe un peu par hasard dans l'ethnologie et qui va se former sur le terrain en quelque sorte, mais qui va comprendre très rapidement qu'en fait ce qu'il peut faire de plus original, de plus ambitieux, de plus singulier, c'est sans doute de créer un musée des arts et traditions populaires. C'est-à-dire de patrimonialiser les manières de vivre, les manières de travailler, les manières de penser, comme il le dit si bien dans l'extrait que vous venez de passer, de la culture rurale, des sociétés rurales, de la France. Alors, j'ai envie de dire contemporaine, parce qu'en fait, c'est un ethnologue qui ne s'intéresse pas beaucoup à la question qui travaille par ailleurs les historiens, qui s'appelle la périodisation. On ne sait pas exactement quand cette France pré-industrielle commence et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle finit. C'est-à-dire que, en fait, sa temporalité commence quelque part au XVIIIe siècle et elle ne finit pas. C'est-à-dire que quand il collecte des objets ou fait collecter des objets, des traditions, des chants dans l'Aubrac dans les années 60, c'est encore et toujours cette période qui l'intéresse. Et alors ça, il faut le corréler aussi à une autre grande singularité de Georges-Henri Rivière, c'est qu'en fait ce projet de musée national des arts et traditions populaires, il va le porter dès les années 30, jusqu'à la fin de sa vie, il meurt en 1985, où il est encore au travail, bien qu'étant à la retraite depuis presque 20 ans, et où il continue de concevoir des vitrines dans ce qu'il appelle le nouveau siège, c'est-à-dire ce bâtiment construit par Dubuisson, ultra-moderne en effet, dans les jardins du Bois de Boulogne, où il va mettre en scène le fruit de ce travail. Mais en fait, c'est un projet qu'il porte et qu'il ne cesse de réaménager du Front populaire à l'occupation, à la 4e République et à la 5e République des affaires culturelles de Malraux. Et on pourrait presque dire qu'il est le contemporain, évidemment, de l'arrivée des socialistes au pouvoir, même si, ça, en l'occurrence, ça n'a pas exactement d'incidence sur son travail qui est déjà très enclenché.
Oui, puis il est né à la toute fin du 19e siècle. Il est né en 1897. Cette histoire-là, Bertrand Tillier, c'est aussi une histoire de génération. Vivre en France dans les années 1960, aller dans les campagnes, que ce soit dans l'Aubrac, mais partout en France, nous permet d'approcher des gens qui sont nés au 19e siècle et qui reproduisent des modes de vie avec des objets, des outils qui eux-mêmes datent d'avant. Et ce sentiment-là, et c'est cela aussi qui est complexe à étudier, que nous sommes au plus près de manières de vivre très anciennes. Mais c'est vrai que ça existait encore. Et dans les années 60, il y avait encore des endroits où il n'y a pas d'électricité. C'est ça aussi qui est fascinant. Et pour lui, constater cela, c'est aussi l'occasion de le transformer en patrimoine.
Oui, et puis, alors évidemment, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « Le fantasme patrimonial ». C'est-à-dire que ça repose beaucoup sur à la fois des observations critiques et un travail tout à fait sérieux, mené avec une forme de rigueur scientifique, mais c'est aussi une forme de fantasme, c'est-à-dire c'est essayer de s'approcher de ce passé qui n'est pas périodisé, mais qui lui apparaît comme survivant, et qu'il veut essayer de faire entrer au musée. J'étais très frappé par le fait que dans cette opération de patrimonialisation de cette salle commune au Fajou, donc au milieu des années 60, ce qui intéresse Rivière et ses équipes, c'est le fait que l'électricité ne soit arrivée qu'en 1938. Cette date revient comme une espèce de date fondatrice, comme un moment où l'histoire se transforme. Et par le fait que l'eau courante ne soit pas dans cette ferme au milieu des années 60, qu'on aille encore chercher l'eau pour se nourrir, préparer la soupe, faire boire les animaux, etc., qu'on allait chercher à quelques dizaines de mètres du foyer de la famille Girbal. Donc on voit bien qu'il y a en permanence cette mise en tension entre la modernité, qui est inévitable, qui est incontournable, et puis ce qu'on va essayer d'approcher, de toucher du doigt d'un passé qui est en fait un passé archaïque, qui l'intéresse parce que c'est sa principale qualité que Georges-Henri Rivière décèle chez lui.
Comment a-t-il procédé ? Alors lui et ses équipes, hein, on l'entend bien, il n'est pas tout seul à y aller. Donc l'idée, c'est de repérer une pièce, une salle, dans un petit hameau de l'Aubrac et de transformer cela en patrimoine. Comment procéder ?
Alors d'abord, ça s'inscrit, peut-être c'est ce qu'il faut rappeler, ça s'inscrit dans une vaste opération qui engage des sociologues, des ethnologues, des muséologues, des démographes, etc., des économistes, hein, qui portent sur l'Aubrac. Cette opération, elle est initiée par la DGRST, c'est la Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique, qui est une sorte d'ancêtre du ministère actuel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Et il s'agit d'accompagner, en fait, la mutation économique et sociale de l'Aubrac, qui, votre premier extrait l'a rappelé, est une économie agropastorale fromagère. On a des vaches d'Aubrac pour faire du lait et du fromage, de la fourme. Mais tout ça est en train de changer dans les années 60. Et donc, il s'agit de réfléchir à ce qu'on va faire de ces vaches d'Aubrac et des activités agricoles qui lui sont liées. Et donc, c'est la mutation vers la société, une société agropastorale de filière bouchère. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on mange de la viande d'Aubrac dans beaucoup d'endroits en dehors de l'Aubrac. Et donc, Rivière et ses équipes sont conscients qu'il y a là une mutation de fait, mais qui va s'accentuer par le changement agropastoral qui est en train de se produire. Et donc, on collecte, on envoie, pendant plusieurs années, des équipes en veillant à ne pas surenquêter pour ne pas épuiser les témoins. Donc on envoie des spécialistes de la langue, des spécialistes de la chanson, des cultes, du travail agricole, etc. Et on commence à collecter plusieurs centaines d'objets qui vont rejoindre les collections du Musée des Arts et Traditions Populaires. Mais au milieu de cette collecte, de cette enquête collecte qui est assez classique telle que Rivière la pratique ou l'a fait pratiquer, il y a ce moment où Rivière se dit qu'il faut collecter davantage, et donc il veut collecter des espaces complets, ce qu'il appelle des unités écologiques. Alors ce qu'il entend par écologie, c'est pas l'écologie d'aujourd'hui, c'est plutôt l'idée que tout ce qu'on va collecter, une loge de vacher dans un buron, un atelier d'artisan ou cette salle commune, qui est une salle domestique dans laquelle on mange, on dort, on vit, etc. Eh bien, ça va être de collecter des objets, mais aussi les interactions domestiques et sociales des individus à travers leurs objets, leur mobilier, le contenu des tiroirs, la vaisselle, etc. Voilà, donc collecter cela, ça veut dire le démonter le transporter d'Aubrac à Paris.
Direction les burons.
La transhumance des troupeaux a toujours rythmé la vie dans ce pays, avec l'arrivée des bêtes à la Saint-Jean en juin et la descente vers le Causse-Aveyronnais à la mi-octobre. Ce rythme demeure encore, mais la mesure n'est plus la même qu'autrefois. Les buronniers se font de plus en plus rares, c'est que la vie est dure dans les burons. Pendant 4 mois et demi, on garde des vaches, on fait du fromage, on ne voit presque personne, les anciens le savent bien. Aussi, le jour du départ, on trinque à l'amitié. Ce jour, c'est un jour de fête pour les derniers buronniers, les Cantalès, les Bédeliers, les Pastres et les Roules.
Pour nous, c'est une bonne journée, parce qu'on touche la paye.
Le revenu du buronnier provient du fromage qu'il fabrique. En échange de la garde des vaches, les propriétaires de troupeaux lui laissent le lait. Avec une restriction toutefois, le propriétaire a droit à 2 kilos de fromage par vache. Une coutume qui rappelle celle du Moyen-Âge, en faveur du Seigneur. En dehors des burons, le système est évidemment moins folklorique. Le propriétaire paie l'estive, une sorte de pension d'environ 200 francs par vache. On laisse le veau boire le lait et on vend ensuite la viande. Mais dans un buron, si le chef d'équipe s'appelle Cantalès, c'est parce qu'il fait du fromage le Cantal.
Les Burons en 1971. Bertrand Tillier, vous avez reconnu l'instrument de musique?
Oui, c'est une cabrette.
C'est quoi?
Une cabrette, c'est une petite cornemuse auvergnate. Les équipes de Georges-Jean Rivière ont évidemment collecté, puisqu'il y avait des ethnomusicologues, des sons, des mélodies, et ils ont aussi collecté des instruments de musique qui sont aujourd'hui conservés au MUCEM, qui est l'héritier des collections du Musée des Arts et Traditions Populaires.
Avec, dans cette démarche, l'idée de collecter des objets, mais ça vous nous l'avez dit, c'est une démarche ancienne, et on a ici tel outil, tel instrument, tel casserole, tel... formidable. Collecter des témoignages, ça aussi, nous le connaissons, et des chansons, et des récits. La démarche menée dans l'Aubrac, à ce moment-là, c'est d'aller plus loin. Vous nous avez dit, c'est de collecter une salle entière, de tout prendre, mais ça veut dire démonter la maison, tout emmener, tout numéroter, tout photographier. D'ailleurs, c'est la couverture de votre ouvrage, hein, aux éditions du CNRS, Le Fantasme Patrimonial, Récit des Fajous. On voit une pièce avec le vaisselier, avec le banc, avec la table, mais la bouteille et les verres sont aussi sur la table. C'est ça, c'est tout prendre et tout emmener.
Et le tiroir est entrouvert, avec du pain à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le principe de l'unité écologique, c'est un démontage complet et un transport intégral du contenu d'une pièce domestique, en l'occurrence. Donc, pour Rivière et ses équipes, l'idée, c'est de tout emporter, et c'est d'emporter la vie, en fait. C'est de patrimonialiser la vie, ce qui est aussi, évidemment, éminemment fantasmatique. Parce que des salles communes abandonnées dans l'Aubrac des années 60, il y en a, qui sont d'ailleurs photographiées par Jean-Dominique Lajoux, qui était le photographe cinéaste principal attaché à l'équipe. Donc, il aurait été très facile, sans doute, au-delà des aspects légaux, retrouver les héritiers, les propriétaires, etc., il aurait été facile, sans aucun doute, de démonter une de ces salles communes abandonnées et puis de la transporter à Paris. Mais ce qui intéresse Rivière, c'est pas ça, précisément. C'est qu'elle soit encore occupée. C'est-à-dire qu'il veut patrimonialiser quelque chose dans lequel il y a encore la vie. D'ailleurs, il y a ces échanges de correspondances assez incroyables entre Aubrac et Joséphine et Laurent Girbal, qui sont ces deux vieux Aubraciens célibataires, qui frères et sœurs, qui vivent dans ce lieu pendant une partie de l'année. C'est qu'en fait, il leur dit, voilà, que vous produisez, vous êtes le patrimoine de la France, vous êtes le patrimoine national. Pour des gens qui ne sont quasiment jamais allés à Paris. Laurent Girbal est allé à Paris pour le service militaire, comme beaucoup d'hommes de sa génération, et ça s'est arrêté là. C'est évidemment une sorte d'énigme, mais c'est les conditions de l'opération telle qu'elle va se faire, qui consiste donc à ramener l'intérieur de cette maison des Fajous au mur et au sol. C'est-à-dire qu'on démonte tout, y compris les pans de bois, le plancher, le plafond. On emporte le contenu des tiroirs, on démonte le plafonnier, on emporte la vaisselle du vaisselier, les chaises, les bancs, la patère sur laquelle les Girbal accrochent, elle, son tablier, lui, son chapeau de feutre. Donc on emporte tout et on le patrimonialise avec l'idée donc de le reconstituer, ce qui ne sera jamais fait au Musée des Arts et Traditions Populaires, mais ce qui aura lieu une fois en 1980 au Grand Palais dans le cadre de l'année du patrimoine, qui a été une des premières grandes manifestations bilan autour du rapport des Français au patrimoine.
Laurent et Joséphine ne disent rien, on leur prend tout, même les murs, même le sol. Il y a quand même quelque chose à dire ici.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est une opération de spoliation, c'est une sorte de spoliation au champ. C'est-à-dire, évidemment, ça se fait sans violence, on leur met pas le couteau sous la gorge, on ne les menace pas, on négocie avec eux, on négocie les conditions, mais c'est quand même d'une très très grande violence symbolique, même si on leur fait refaire par un artisan menuisier du coin une sorte de réplique. en bois. Même si on rachète pièce à pièce ce dont ils ont besoin, ils fournissent eux-mêmes les listes des documents et des éléments dont ils ont besoin. Reste que c'est quand même une opération. C'est comme un coup de vent, c'est comme une tornade qui emporte des pans de vie. Alors des pans de vie de ces deux vieux Obraciens, mais de leur famille et de leur histoire depuis 3 ou 4 générations. Donc on voit qu'il y a là une transposition finalement des pratiques de l'ethnomuséographie extra-occidentale telle qu'elle s'est développée au musée d'ethnologie dans les années 20 et 30, je pense à la mission Dakar Djibouti par exemple, à la préparation de laquelle Rivière avait d'ailleurs préparé, puisqu'il était le directeur adjoint de l'institution à côté de Paul Rivet. Alors, il n'est pas allé en Afrique, mais il a complètement planifié cette opération. Et donc on voit qu'il y a là une sorte de transfert, on pourrait dire, d'une culture de l'ethnologie extra-occidentale à une culture de l'ethnologie métropolitaine.
Ah bah alors là, c'est passionnant ce que vous nous dites là, parce que bien sûr, dans le rapport qu'il peut y avoir entre les centres de production culturelle, Paris pour la France, et puis le reste du pays, il y a un regard qui équivaut parfois à celui porté sur les colonies. Longtemps, le regard porté sur la Bretagne, et on l'entend bien ici sur l'Aubrac encore au XXe siècle, c'est un regard complexe venu de gens formés, des sachants de la capitale. Est-ce que cela est pris en compte par ces ethnologues, parce qu'on sait combien la position de l'ethnologue, de l'anthropologue est complexe? Il y a ici l'idée de perturber même ce qu'ils étudient.
Alors c'est une position très délicate, évidemment. Ces ethnologues, d'abord, ils sont d'origine sociale plus élevée que ceux auxquels ils s'intéressent. Ils ont fait des études. Je pense à certaines femmes en manteau de fourrure. Je leur fais pas de reproches, hein, mais qui viennent avec des bottes et qui discutent dans la cour de la ferme de l'intérêt des objets et qui les achètent. Voilà, en disant cet objet va rentrer dans les collections nationales. Ça n'est pas rien. Donc on peut assister parfois dans les archives, notamment dans des scènes filmées qui sont assez rares, mais qui sont très intéressantes, à la négociation de l'achat d'un objet. Alors là, il n'y a pas eu de... Pour les Fajous, il n'y a pas eu de filmage, de tractation, mais on a quelques archives qui montrent qu'en effet, c'est une relation, on pourrait dire, asymétrique, hein, entre ceux qui savent, qui agissent, qui viennent de Paris, qui agissent au nom de l'État et d'une institution centrale, avec cette vieille question de la centralisation de l'institution patrimoniale. Et puis, ce frère et cette sœur, on peut imaginer que ça leur tombe dessus un peu comme une sorte de météorite qui tomberait au milieu de leur cour. Alors ils sont à la fois sans doute flattés, qu'on s'intéresse à eux, qu'on les fasse parler, qu'on les enregistre, qu'on les photographie, voilà. Et puis en même temps, il y a des photos terribles de Jean-Dominique Lajoux qu'il fait 2 ou 3 ans après, où ils vivent, ces deux vieux Obraciens, dans la réplique donc de leur intérieur, et où ils ont l'air quand même un petit peu assommés par ce qui leur est arrivé, sachant que, bon, ils ont touché un peu d'argent, on leur a fait cette réplique, et puis on leur a donné, en prime, la télévision qu'ils n'avaient pas, et un carillon électrique à sonnerie Westminster. Et donc on voit ces deux objets qui entrent dans le champ des photographies de leur vie, après l'opération de patrimonialisation, et on comprend que finalement ces ethnologues qui veulent sauver une culture en voie de disparition, si je force le trait, ils ont été eux-mêmes les agents d'une accélération de cette mutation qu'ils ont non seulement accompagnée, mais un peu produite au nom du patrimoine.
Oui, et puis dans cette campagne de recherche, et on l'entend bien ici avec de nombreuses disciplines qui s'intéressent aux Fajous, il y a de la documentation produite de tout type, hein, des photographies, bien sûr, des témoignages de l'écrit, des documents dactylographiés, et notamment de Suzanne Tardieu, anthropologue, qui, en septembre 1965, évoque cette maison restaurée.
La maison Girbal a été restaurée en 1875 et aménagée en 1887. La salle commune voit ses murs recouverts d'un ensemble de boiseries incluant 2 lits d'alcôve, une horloge, des placards. Le feu d'âtre encore utilisé se voit partiellement supplanté par une cuisinière à bois. La table longue est accompagnée de deux bancs. La souillarde donne dans la salle commune et ouvre directement dans l'étable. Tout l'ensemble est conservé dans un état de propreté et d'entretien, condition rarement réalisée dans des intérieurs de ce genre. La salle commune n'a pas d'adduction d'eau. Celle-ci se trouve à quelques centaines de mètres de l'habitation, ce qui rend les conditions de vie particulièrement difficiles en hiver. Boiseries, mobilier indépendant, équipements domestiques, souvenirs familiaux et religieux ont fait l'objet de l'acquisition présentée.
Un texte d'anthropologue de 1965, lu par Thomas Beau. Thomas qui réalise le cours de l'histoire, la technique aujourd'hui, Meta Diawara, avec... Thomas est taquin. Cette volonté de jouer sur le décalage entre la musique et le son, mais qui correspond exactement au regard qui est porté. Ce texte dactylographié évoque une histoire que les habitants eux-mêmes ne maîtrisent pas. On raconte leur histoire, ils sont là, ils suivent tout ça, il y a un intérêt porté sur ce qui se passe.
Oui, c'est le grand paradoxe de cette enquête, ou en tout cas de cette part de l'enquête, c'est qu'on révèle au fond à ces personnes le fait qu'ils sont porteurs d'une histoire. Alors ils le savent, mais pour eux c'est une mémoire sans doute, et on leur apprend en quelque sorte des choses sur leur histoire, parce que par ailleurs on cherche dans les archives, on travaille sur le cadastre, sur l'état civil, et donc on arrive à préciser des choses dont Laurent et Joséphine Girbal sont pas forcément au fait. Donc, y a là aussi une position, évidemment, intermédiaire de l'ethnologue, qui est très singulière, et qui agit sur ceux qui sont, selon leur terme, les enquêtés. Mais il faut dire aussi que Laurent et Joséphine Girbal sont des acteurs de cette enquête. Au-delà de la patrimonialisation de leur intérieur, ils se prêtent au jeu de la reconstitution devant la caméra, par exemple, de Jean-Dominique Lajoux. Joséphine Girbal va refaire la lessive à la cendre, laver des draps à l'eau de la fontaine avec les cendres collectées dans l'âtre au fil des mois. Alors Jean-Dominique Lajoux, il est dans ses notes, il est un peu ironique, il dit c'est bizarre, à l'heure de persil et de la lessive homo qui lave plus blanc que blanc, comme me disait le slogan, cette lessive à la cendre, j'y crois pas beaucoup, mais il tourne quand même les images. Laurent Girbal, lui, va refaire un petit jeu, puisque c'est un paysan bricoleur, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne sa vie à la fois comme exploitant agricole, mais qui en même temps produit des outils qu'il vend dans l'aire géographique autour de chez lui. Et donc il fait un petit joug sous l'œil de la caméra.
Le joug pour...
un joug d'attelage, ouais. Voilà. Et puis, il va chercher aussi des objets, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il connaît des gens dans son entourage qui possèdent tel type d'objet, tel bouffadou, tel outil ancien, et donc il sert d'intermédiaire dans les négociations avec les ethnologues pour acquérir des objets qui rentreront dans les collections du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc on voit que la position de chacun, position des enquêteurs et position des enquêtés, est finalement assez flottante, et qu'elle ne cesse de se recomposer, d'évoluer au fil des actions, parce qu'évidemment il y a aussi cette question du lien que les enquêteurs nouent au fil du temps avec leur sujet.
Oui, les enquêtés, d'ailleurs, le terme est très fort. Et puis ici, de demander à Laurent Girbal de refabriquer donc un joug pour l'attelage pour les animaux, c'est très fort, surtout quand il est filmé par Jean-Dominique Lajoux.
Pour nous nourrir, on fait un peu de tout comme légumes. Seulement, la saison est courte ici. Oui, autrement, on fait des légumes. On fait un peu de tout, des salades, des carottes, des petits pois, des haricots, un peu de tout. On fait les pommes de terre, oui, de l'autre la sorte.
Il les jette derrière sur la terre et puis il les ramasse le soir.
On se levait des fois à 4 heures du matin et on partait avec les bêtes jusque de 4 heures jusque par là vers les 6 heures de 7 heures. On restait au champ à la volée.
Il y en a qui ne peuvent pas vivre avec 40 bêtes et d'autres qui vivent bien avec 20. Et même à 10, deux personnes peuvent vivre si c'est bien exploité. Oui. Il y en a qui ne soignent pas leurs bêtes. En perdant tout le monde à des voitures, ils sortent tous les jours. En sortant, ils mangent des sous, pardi.
Eh ben oui, pardi. Les Fajous, c'est le film de Jean-Dominique Lajoux, un film de 1971, une production du CNRS. Ben, ça tombe bien, hein, ce sont les éditions du CNRS, Bertrand Tillier, qui publie Le fantôme patrimonial, récit des Fajous. Quelle est l'ambition de ce film? Parce que conserver des photographies, des témoignages, des objets aussi, pour les étudier, pour les conserver, nous saisissons la démarche. Un film, c'est aussi un positionnement. Ce n'est pas juste du recueil de témoignages. On l'a bien entendu dans ce que vous avez dit.
En fait, Rivière est très tôt conscient, en tant que muséologue, qu'ethnomuséologue, que les objets qu'il collecte assez rapidement ne parleront plus au public de son musée. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le lien social, qui est un lien familial avec le monde rural, des populations de plus en plus urbaines, va se distendre et finira même par se rompre. Et que ces objets ne signifieront plus rien. Et qu'il faut donc les accompagner d'une série de dispositifs. Alors, il fait des choix très très radicaux. On l'a beaucoup appelé, Rivière, le magicien des vitrines. C'est-à-dire, il refuse, par exemple, le principe du mannequin. Il suspend tout, les vêtements, les objets, les outils, les instruments de musique, avec des fils de nylon. Il les éclaire dans les vitrines. Il accompagne tous ces objets de cartels assez précis, cartels explicatifs. Et puis, il le disait d'ailleurs dans l'extrait que nous avons entendu, il y a un environnement audio-visuel. Alors, j'insiste sur le tiret, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'audiovisuel sans tiret, et on voit à peu près ce que ça veut dire. C'est pas exactement, évidemment, l'utilisation du terme par Rivière. L'audiovisuel, selon Rivière, c'est l'idée qu'on va donner à entendre des documents sonores et qu'on va donner à voir des documents figurés aux visiteurs. Donc ça va être des documents, des reproductions de documents d'archives, des reproductions de photographies, parce que très tôt, il fait travailler un photographe, Pierre Soulier, dans le cadre de ses enquêtes collectes. Et puis, à partir de l'enquête au Braque, un peu avant, mais disons que ça se densifie avec l'enquête au Braque et la collaboration de Jean-Dominique Lajoux, on tourne des images qui sont à la fois des archives visuelles et sonores, alors audiovisuelles sans tiret, mais qui sont aussi des éléments que l'on va pouvoir exploiter dans la muséographie du Musée des Arts et Traditions Populaires.
Oui, parce qu'il faut permettre aux visiteurs, aux visiteuses d'être au plus près de ces objets, de ce vécu, de les saisir, de les comprendre. L'image figée par la photographie, c'est essentiel. L'image filmée, ça fonctionne bien aussi. Et puis, pour tout cela, il faut un environnement sonore et musical.
Thank you.
Marcel Pelat, là-bas le long de la rivière, parce qu'il n'y a pas que la cabrette au Fajou, en Aubrac, dans le Cantal et donc en Auvergne, il y a aussi de l'accordéon, le fantasme patrimonial. Bertrand Tillier, nous avons ici la volonté de la part d'une équipe conduite par Georges-Henri Rivière au milieu des années 1960 de transformer en élément de patrimoine une salle entière issue d'un monde rural. L'idée, c'est de la transporter pour la présenter au Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris. Cela n'a pas été réalisé, nous disiez-vous.
Non, ça n'a pas été réalisé pour cette unité écologique-là. D'autres, d'Aubrac d'ailleurs, ont été reconstitués dans les espaces du musée installé au Bois de Boulogne. Mais pas la salle commune des Fajou. En revanche, donc elle a été conservée, démontée. En revanche, en 1980, donc au Grand Palais, on a reconstitué dans une exposition qui s'appelait « Hier pour demain », une exposition un peu bilan sur les 30 ou 40 années de travail ethnographique conduite par les équipes de Rivière. On a reconstitué cette salle, donc sous la forme d'une sorte de cube qui est reproduit dans le livre, une sorte de cube avec un pan renversé, permettant donc de voir le sol, le plafond et les trois murs.
Sait-on pourquoi d'ailleurs elle n'a pas été reconstituée au Musée des Arts et Traditions Populaires ? Il y a une raison particulière ou
c'est non, il n'y a pas de raison. Je pense que ce sont des choix. J'ai pas trouvé spécialement d'archives sur cette question, mais ce sont des choix. C'est-à-dire qu'évidemment, ça prend beaucoup de place. L'espace, même si le musée était très grand, n'était pas extensible. D'autres unités avaient été reconstituées. Bon, puis de toute façon, on le sait, le musée n'est pas qu'un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu de conservation. Et ce qui n'est pas exposé un jour peut l'être un autre. Donc tout ça n'est pas anormal. En revanche, donc on reconstitue cette salle pour l'exposition 1980, et c'est là où Hervé Guibert, qui est le critique photo du Monde à ce moment-là, va la découvrir et va être totalement sidéré par ce qu'il voit.
En 1964, des chercheurs de l'équipe Georges-Henri Rivière déménagent littéralement, pillent la salle commune d'une maison paysanne de l'Aubrac, qui n'a pas bougé depuis 1887, et prennent les moulages de ce qui n'est pas démontable. On est là aujourd'hui à la lisière de cette salle vide, avec sa cheminée, ses pots à tabac, ses vieux chromos, son coffre en bois qui renfermait le fil à tisser, le tiroir de la table où l'on mettait la miche de pain, l'anneau de la trappe qui conduisait à la cave et la porte latérale qui donnait sur la souillarde, où l'on faisait la vaisselle. Et l'on est là, ahuri, comme à la lisière du passé, un seul coup d'œil et on s'y projette. Mieux que dans un film qui habiterait la même pièce avec des acteurs costumés. Cette reconstitution est une vraie machine à remonter le temps. Aucune photographie, ni même stéréoscopie, ou même holographie, ne pourrait donner cette sensation si forte d'aspiration au passé.
Raphaël Halloum dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait ici un article du journal Le Monde du 20 août 1980, « Les mirages de la photographie », un article d'Hervé Guibert. Hervé Guibert, c'est Hervé Guibert que nous connaissons comme le romancier à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, proche de Michel Foucault, qui d'ailleurs, dans les années 1970, Michel Foucault avait conduit ce même type d'enquête du côté de la Normandie avec Pierre Rivière. Donc on est à la croisée de toutes ces réflexions. Hervé Guibert, lors de l'exposition « Hier pour demain » au Grand Palais à Paris, est fasciné par cette salle reconstituée venue des Fajou.
Oui, en fait, il y va pour voir, en tant que critique photo, une série de photographies de Charles Lhermitte, le fils du grand peintre Léon Lhermitte, du grand peintre de la vie rurale Léon Lhermitte, qui, juste à la veille de la Grande Guerre, a photographié la vie rurale en Bretagne. Et donc, il y a toute une série de ces photos de Charles Lhermitte acquises par l'État qui sont présentées. Et Guibert, dans son article, passe très vite sur ces photographies en disant qu'au fond, elles ne l'intéressent pas beaucoup parce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles sont, c'est-à-dire des objets ethnographiques. En revanche, et ça n'était évidemment pas, sans doute pas prévu pour lui, il tombe en arrêt devant cette salle commune des Fajous reconstituée. Et il dit, voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, aucune photo ne peut faire ça, même la photo stéréoscopique qui donne du relief et de la profondeur, et on se tient au bord de quelque chose, hein, c'est-à-dire au bord du passé, mais passé comme un précipice, au fond, dans lequel on pourrait tomber, dans lequel on a envie de pénétrer. Et donc, ça nourrit chez lui toute une réflexion, de manière très inattendue, évidemment, sur la pénétrabilité de la photographie comme objet temporel, c'est-à-dire comme archive. Hein, le « ça a été », le fameux « ça a été » de Roland Barthes. Et donc, on voit comment cette salle commune des Fajous le fait réfléchir, et elle le fait réfléchir aussi sur la notion même de patrimoine, parce qu'on est dans cette année du patrimoine que la droite finissante a lancée avec toutes sortes d'opérations citoyennes. On a un peu oublié aujourd'hui, parce que ça a été balayé par les politiques culturelles de Jack Lang, mais enfin, cette année du patrimoine décidée par Jean-Philippe Leca à la toute fin donc du septennat de Giscard, ça a été un grand moment. Et donc, Guibert est devant cet endroit où il ne manque que les habitants, c'est-à-dire qu'on voit aussi à quel point le fantasme de l'unité écologique à la rivière fonctionne, et il dit, mais peut-être que l'avenir du patrimoine, c'est ça, c'est-à-dire une sorte de lieu social post-nucléaire, balayé par le souffle, où il ne reste plus que les objets. Et évidemment, c'est à la fois très beau et pétrifiant, parce que ce qui s'est joué, c'est aussi une pétrification, évidemment, des objets patrimoniaux.
Et oui, là, tout est figé, avec ici le regard de l'artiste, de l'écrivain, hein, par Hervé Guibert. Mais à cela se mêle la démarche scientifique pour cette exposition de 1980, Hier pour demain. Le titre est sublime, hein. Hier pour demain, il y a le regard des ethnologues.
Nous voyons là, en pleine exposition, un intérieur domestique complet en provenance d'Auvergne, d'un petit village de l'Aubrac, d'un hameau qui s'appelle Les Fajous. Mais nous présentons cet intérieur non pas du tout tel qu'il aurait été reconstitué de pièces et de morceaux, mais tel qu'il nous a été donné, fourni par les habitants de ce village eux-mêmes, avec l'intégralité des pièces de mobilier, un mobilier extrêmement intégré, d'ailleurs, et la démarche de l'ethnologue qui a travaillé avec les détenteurs, par conséquent, de ce qui est devenu aujourd'hui un véritable patrimoine.
Jean Cuisonnier, qui est philosophe, qui est ethnologue, qui s'exprimait à propos de l'exposition Hier pour demain. Nous étions donc en 1980 sur France Culture. Bertrand Tillier, la démarche de l'artiste, la démarche de l'ethnologue, très bien, puis la démarche du public aussi. Est-ce que le fait de montrer sous forme de patrimoine cette pièce venue des Fajous, mais comme tant d'autres objets, ça a un effet? Parce que nous sommes en 1980, des gens qui ont seulement 60 ans, ils sont nés en 1920, donc eux-mêmes, s'ils allaient voir leurs grands-parents, ils sont plongés dans le 19e siècle. Il y a un rapport particulier qui se crée à ce moment-là avec ce patrimoine rural.
Alors, c'est difficile de mesurer, et surtout qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore systématisé les grandes enquêtes sur les usagers, disons, des musées, du patrimoine, etc. Donc, c'est très difficile de l'apprécier. Et ce qu'on peut savoir, c'est toujours à travers des témoignages qui ne sont pas ceux du grand public, disons, mais plutôt de critiques, de journalistes, de spécialistes qui ont laissé des textes. En tout cas, ce qui est certain, et ça j'en ai retrouvé la trace dans un certain nombre de petits bulletins des Aubraciens de Paris, qui étaient quand même les tenanciers de la grande majorité des bistrots de la capitale jusqu'à assez tard, hein, jusque dans les années 90-2000, c'est que au fond il y a eu une fierté presque un peu régionale de voir cette pièce reconstituée. Et cette fierté, elle a d'autant mieux fonctionné que les Aubraciens de Paris, leur spécialité, si j'ose dire, leur spécificité, c'est de n'avoir jamais cessé de faire des allers-retours entre Paris et l'Aubrac au cours de leur vie familiale, au cours de leur vie personnelle. Au point que, dans cette grande enquête pluridisciplinaire sur l'Aubrac, très rapidement, Rivière se dit « mais en fait, tout ne se joue pas qu'en Aubrac, il y a aussi les Aubraciens de Paris, la tradition du bougnat, pour aller vite ». Et donc il faut la prendre en compte, parce que c'est ce qui explique que la musique aubracienne, la cabrette, l'accordéon, on en entende aussi à Paris, et qu'il y ait des échanges culturels qui ne sont pas forcément à regarder de manière négative sous la forme d'une dénaturation, mais plutôt sous la forme de transformation, de migration de culture qui se joue entre Paris et la province. Donc la salle commune des Fajoux reconstituée au Grand Palais en 1980, elle est aussi porteuse de tout ça. Et puis vous avez rappelé, ça me fait très plaisir, le rôle de cuisinier, qui est le grand oublié, en quelque sorte, de l'histoire du Musée des Arts et Traditions Populaires, hein, parce qu'il succède à Rivière, et que, voilà, Rivière prend sa retraite à la fin des années 60, mais il est encore là au milieu des années 80, et vous imaginez, c'est facilement ce que ça veut dire être le directeur d'un musée qui doit travailler à côté, et peut-être même encore un peu sous la houlette, de celui qui est le créateur de l'institution. Or, c'est un changement de génération, c'est un changement de discipline aussi, puisque cuisinier, en effet, vous l'avez dit, est un philosophe, mais c'est un sociologue de la famille, et c'est quelqu'un qui va devenir très progressivement un ethnologue, mais qui n'aura pas le statut de muséologue de Rivière. Il n'a pas le même attachement aux objets, parce qu'il ne vient pas du même monde, il n'a pas été formé de la même manière, et donc tout l'enjeu pour cuisinier, ça va être finalement de se positionner scientifiquement, muséographiquement, face au legs patrimonial qui est celui de Rivière. C'est presque un métier en soi, je veux dire.
C'est pas facile avec ici ce récit des Fajoux, Bertrand Tillier, qui s'inscrit dans une longue histoire, ça on l'a bien compris, au même moment avec d'autres démarches similaires, pluridisciplinaires, mais surtout, ce à quoi nous assistons, c'est dès les années 1970, et bien encore dans les années 1980, et encore aujourd'hui, à une multiplication de démarches, parfois très locales, parfois départementales, etc., autour du patrimoine rural. Et là, on sent qu'on est dans un phénomène patrimonial beaucoup plus vaste.
Oui, alors Rivière est un peu un acteur hein, de cette affaire. En tout cas, Rivière et son musée, et c'était aussi une particularité du Musée des Arts et Traditions Populaires, le centre de recherche du CNRS qui était intégré au musée, ce qui a rendu d'ailleurs Malraux totalement fou, dit-on, quand il a découvert, et ce serait l'origine de la mise à la retraite un peu précoce de Rivière, qui serait bien resté plus longtemps, on l'a compris, quand il a découvert qu'il y avait de la science au musée. Pour Malraux, c'est une hérésie. Le musée, c'est le lieu de la beauté, c'est pas le lieu de la science. Bref. En tout cas, il y a ces équipes de scientifiques, et ce sont ces équipes de scientifiques conduites par Rivière qui vont former toute une génération de jeunes ethnomusicologues en particulier, qui vont, à travers toute la province française, se livrer dans les années 70, par exemple, à de grandes opérations de collectage, de mélodies, de jeux d'instruments. Voilà, on est là dans l'après 68, dans l'entre-deux-mais, comme dirait Pascal Horry. On est dans l'entre-deux-mais, entre 68 et 81, et ce sont, pour aller vite, des héritiers de mai 68 qui s'intéressent à la culture populaire, non savante, à la musique non notée, à l'apprentissage par la pratique et par le collectage. Et donc, c'est quand même un grand paradoxe de voir que cette culture a été réinventée par ce qu'on a appelé aussi les néo-ruraux, des gens plutôt marqués à gauche, ce qui était sans doute pas complètement le cas de Georges-Henri Rivière, qui avait une forme de plasticité idéologique, on l'a bien compris, et de voir que tout ce changement de génération a rendu possible un passage de relais, qui a aussi joué beaucoup sur ce qu'on appelle le petit patrimoine, où les néo-ruraux sont beaucoup emparés dans leur village du lavoir, du pressoir, du moulin, etc., pour le restaurer. Donc, Rivière par ses actions, qui parfois sont radicales, il faut le dire, mais ça n'est pas, enfin c'est pas forcément une limite. Rivière a évidemment beaucoup contribué à la prise de conscience citoyenne du patrimoine rural.
Regardez-moi cette dentelle, la finesse du point, c'est la scène finale des Bronzés font du ski, le film de Patrice Lecomte en 1979, qui joue justement sur ce décalage entre la fascination que des Parisiens ont pour des objets, tandis que les gens qui les utilisent, bah, à ce moment-là, cherchent justement à acquérir des objets qui fascine les Parisiens. Et c'est ce jeu de va-et-vient, en fait, qui nous fait comprendre aussi ce en quoi ce fantasme patrimonial draine toute cette histoire.
Oui, alors, scène extraordinaire à la fin des Bronzés font du ski, en effet, où, après avoir cru qu'ils s'étaient perdus et qu'ils allaient mourir dans le plus grand froid, ils sont recueillis par des paysans qui les réchauffent, leur donnent cet alcool insensé à boire avec un crapaud dedans. Voilà, un crapaud dedans. C'est cette scène autour de l'alcool fort, c'est une espèce de parodie des Tontons Flingueurs, mais c'est une autre histoire. Mais tout ça se joue dans un intérieur rural, en bois, avec le bétail qui est juste de l'autre côté des boiseries. Donc on est là en pays savoyard. Et c'est finalement dans ce décalage, c'est la fin des années 70, début des années 80 le film, on est là dans ce décalage qui entre la modernité et l'archaïsme en quelque sorte, mais qui a encore cours à ce moment-là, sans doute de manière un peu marginale, mais néanmoins, et qui fonde évidemment le décalage du comique dans le film.
Ah bah oui, mais il y a la télé quand même. Hein. Oui, c'est vrai, on l'oublie, il le voit après.
C'est vrai,
sous la dentelle.
Les lettres.
Bravo, vous avez une bonne mémoire, Bertrand. C'est cette histoire-là aussi qui nous conduit à regarder au local toutes ces démarches patrimoniales.
Le Creusot, Montceau-les-Mines, l'écomusée. Vous allez voir une porte s'ouvrir, celle du château de la Verrerie. Quelques salles, des vestiges de la toute-puissance des Schneider. Cette porte, c'est aussi celle de l'écomusée. Mais là, point de salle poussiéreuse. L'écomusée a 120 000 gardiens, tous les habitants de la communauté. L'écomusée ne se visite pas, on s'y rencontre. L'équipe permanente n'enferme rien, elle répond aux demandes d'animation, aux initiatives. Elle apporte son aide technique pour que les membres de la communauté deviennent les seuls maîtres de leur histoire. Un musée, peut-être, mais la vie avec soi.
L'écomusée de Montceau-les-Mines en 1978. Pour terminer, Bertrand Tillier, ce qu'on peut dire ici, et ça vient d'être évoqué, c'est aussi une manière pour les populations de se saisir de leur histoire et de leur vie. C'est peut-être ça, avec toutes les limites de cette démarche patrimoniale, mais malgré tout, pour les gens, ça veut dire quelque chose.
Les écomusées, c'est la dernière grande invention de Georges-Henri Rivière et Duc de Varines. Et c'est l'idée que l'écomusée va patrimonialiser la vie des gens ordinaires et qu'ils ne vont pas être simplement des récepteurs d'une politique patrimoniale, mais qu'ils vont en être les acteurs, les producteurs, par leur association à la production de l'institution.
Merci vivement à vous d'être venu dans Le cours de l'histoire. Le fantasme patrimonial, récit des Fajou, c'est publié aux éditions du CNRS. Bertrand Tillier, merci beaucoup parce
merci
que c'est
vous.
Extrêmement éclairant tout ce que vous nous avez dit. Prochain épisode dans Le cours de l'histoire, culture et patrimoine, un siècle de politique municipale.
Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud?
Notre-Dame démaquillée, c'est une autre œuvre de conservation et de rajeunissement à laquelle on vient de se livrer sur le portail central de Notre-Dame de Paris. Les siècles sans doute, mais surtout les poussières et les fumées de notre temps avaient accumulé une crasse épaisse parfois de 3 cm.
Ah oui, Dei Gratia, hein. C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Merci beaucoup Alina pour les archives. Le cours de l'histoire est à retrouver, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.